Alors, je vous rappelle que donc la dernière fois, alors notamment pour ceux qui n'étaient pas là, on a commenté vraiment une sélection donc de chapitres. Alors les chapitres, c'est en fait des paragraphes, hein, de chapitres du manuel d'Épictète, hein, sans vraiment les commenter, pour donner un aperçu un peu global de cette œuvre majeure. Donc je rappelle que ça n'a pas été écrit par Épictète, mais par Quintilien, qui faisait un enseignement oral, et comme beaucoup dans l'Antiquité, et notamment chez les stoïciens et les épicuriens, on préférait l'enseignement oral à l'écrit, au livre écrit, dont il était considéré, à juste titre, à mon avis, que ça figeait, ça cristallisait une pensée qui se doit d'être toujours en mouvement, mouvante, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a peu d'écrits d'un certain nombre de stoïciens. Par exemple, le fondateur du stoïcisme, je le rappelle, qui est Zénon de Citium, lui, en gros, il n'a quasi rien écrit. Et alors, l'autre facteur qui joue, c'est que beaucoup d'écrits de l'Antiquité ont disparu. On n'en a pas retrouvé trace, en réalité. Bref, donc le manuel d'Épictète, ça a été consigné par la suite par un de ses élèves stoïciens, qui était lui aussi un philosophe, qui s'appelle Arien. Arien avec deux R, s'il vous plaît. Voilà. Donc ce manuel d'Épictète, qui est très précieux parce qu'il résume un petit peu l'enseignement stoïcien, parce que ça se veut un manuel dans tous les sens du terme, c'est-à-dire quelque chose qu'on a dans la poche et qui nous aide dans les différentes circonstances de la vie à orienter nos attitudes, nos conduites et nos pensées. Voilà. Donc, nous avions commenté très largement, là je vais terminer avec ça, une première strate. On ne peut pas dire qu'il y ait des parties définies chronologiquement dans le manuel, hein, c'est plutôt des strates différentes qui se répondent, donc qui n'obéissent pas à un ordre véritablement chronologique, même si on peut appeler ça des parties, c'est des parties stratifiées, si vous voulez. Donc, on avait largement abordé la première partie qui fait l'objet des deux premiers chapitres du manuel, qui est l'importance fondamentale, c'est la pierre angulaire de toute la morale stoïcienne et de toute la philosophie stoïcienne, l'importance qu'il y a à distinguer, à séparer ce qui dépend de soi de ce qui ne dépend pas de soi. Ou alors, dans d'autres traductions, ce qui est à notre portée, ce qui n'est pas à notre portée. Hein. C'est le point essentiel parce que la conséquence de cette distinction entre ces deux aspects de la vie va déterminer toute la morale stoïcienne et les conduites que l'on doit avoir dans la vie quotidienne. En gros, ce qui dépend de nous, alors on doit s'en soucier et on peut avoir une action dessus, on peut avoir prise dessus. C'est là que s'exerce notre liberté. Mais par contre, ce qui ne dépend pas de nous, c'est peine perdue et surtout source de trouble de l'âme, source de tracas, source de malheur, de vouloir agir dessus. Agir mentalement ou en termes d'action pratique. Agir mentalement, je veux dire par là de s'énerver dessus, de fixer son affect dessus, ses désirs dessus, ou alors de prétendre maîtriser quoi que ce soit de ce qui ne dépend pas de nous. C'est peine perdue et c'est source de malheur, au fond, du fait qu'on soit malheureux. La finalité de toutes ces morales antiques, que ce soit le stoïcisme, on y pense moins, comme l'épicurisme, ça paraît plus évident, c'est le bonheur, quoi. Le bonheur étant défini pour le stoïcisme, mais aussi par l'épicurisme, comme étant la sérénité, la tranquillité de l'âme, l'apathie pour les stoïciens, Alors, apathie, ce mot, c'est complètement déformé dans le langage courant. Donc, je vous rappelle que c'est le a grec qui est un a privatif, absence de. Pathie, ça vient du verbe pathène ou du nom pathos, Pathos, qui signifie souffrir, éprouver, éprouver, souffrir. Donc l'apathie, c'est en gros, on peut le traduire par l'absence de souffrance ou plus largement l'absence de trouble de l'âme. Et l'autre mot, c'est qui définit un peu cette visée du bonheur de l'âme, c'est l'ataraxie. Ataraxie, donc là c'est pareil, le a privatif, ataraxie. Donc là aussi, ça se traduit par l'absence de trouble. Donc l'apathie, c'est plutôt au départ l'absence de souffrance, et l'ataraxie, plutôt l'absence de trouble de l'âme, de trouble de l'esprit, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le but visé de ces morales, et en particulier du stoïcisme, qui est une façon d'atteindre un bonheur terrestre. Et donc ça passe fondamentalement par le fait, comme on dit aujourd'hui couramment et trivialement, de ne pas chercher à se prendre la tête sur ce qui n'est pas à notre portée, parce que c'est peine perdue. Voilà. Alors, ce qui n'est pas à notre portée, c'est tout ce qui est, je le rappelle, extérieur à soi. Donc tout ce qui est extérieur à soi, c'est aussi bien le corps, notre propre corps, le corps. Et par exemple, on considère que ce qui arrive au corps, et in fine, c'est la mort, mais c'est aussi la maladie, les douleurs, les souffrances, on n'en a pas la maîtrise, ça ne dépend pas de nous. Mais au-delà du corps, on peut, par cercle concentrique, élargir. C'est donc les autres et tout ce qui relève des relations aux autres, donc les jugements des autres, les affects qui proviennent des autres, les opinions des autres sur soi, par exemple la calomnie, l'injure, etc., qu'on reçoit d'autrui. C'est plus largement la vie et l'organisation des communautés, des groupes, et en particulier de la cité, donc de la société, donc de la politique, ça ne dépend pas de soi. Et c'est plus largement encore tout ce qui est le fonctionnement du cosmos, de la nature au sens large du terme, qui est obéi à des ordres qu'on ne maîtrise pas. Donc de ce point de vue-là, ce qu'on appellerait le destin, ce que les Latins ont appelé le fatum, on ne le maîtrise pas. Par contre, ce qui dépend de nous, c'est et sur lequel on peut avoir une emprise, une maîtrise, c'est tout ce qui relève intérieurement de notre âme, de nous. Donc c'est essentiellement l'intellect, au sens large du mot grec, hein. Ce n'est pas simplement l'intellectualité, hein. C'est l'activité supérieure de l'âme, et en particulier tout ce qui est de l'ordre des représentations, des jugements, des évaluations que l'on fait. Des situations que l'on vit, quoi. De toutes les situations que l'on vit. C'est là-dessus que l'on peut avoir donc une maîtrise. Donc, on peut dire que c'est tout ce qui est de l'ordre des jugements, au sens large du terme jugement. Voilà, ça c'est ce que l'on maîtrise. Juste, je l'avais évoqué l'autre fois, mais juste un rappel pour tout le monde rapide. On pourrait conclure de cela que cette philosophie, cette éthique ne permet pas la liberté. C'est tout le contraire. Le stoïcisme, c'est une philosophie de la liberté, fondamentalement. Parce que la liberté, c'est dans cette capacité de l'esprit à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Et d'agir en fonction de cette distinction fondamentale. Autrement dit, ça nous renvoie à une notion au fond moderne, mais qu'on oublie dans l'opinion courante de ce qu'est véritablement la liberté. J'insiste là-dessus, c'est essentiel. L'opinion courante a une vision de ce qu'on appelle en grec la doxa, D-O-X-A, hein, c'est l'opinion commune, qui renvoie à des fausses représentations, justement. L'opinion courante a tendance à considérer que la liberté, c'est l'absence de toute contrainte. C'est le non-limite dans la capacité de désirer et d'agir. Voilà, pour le dire vite. Et que tout ce qui vient établir un cadre, une frontière, des contraintes, des limites, serait antinomique avec la liberté. Donc, dans cette perspective-là, effectivement, le stoïcisme apparaît être une philosophie antinomique avec l'idée de la liberté du sujet. On serait soumis au destin des choses extérieures qui sont en dehors de notre portée. Ce qui est souvent la représentation commune que l'on s'en fait de façon confuse et fausse de l'Antiquité. On dit l'Antiquité, ça serait des sociétés où les gens seraient soumis au fatum, au destin, et la liberté n'existerait pas. C'est totalement faux, c'est totalement erroné, et je pense que c'est nous qui pensons, qui avons cette opinion selon quoi la liberté, ça serait l'illimité, qui ne sommes pas libres, qui sommes supérieurement aliénés, au fond, quoi. Alors pourquoi c'est une philosophie de la liberté? Parce que précisément l'objectif c'est d'atteindre le bonheur, c'est-à-dire cette tranquillité de l'âme, cette sérénité, et que ça dépend de nous. C'est un don fait au sujet humain. Et que celui là aussi, excusez le terme trivial, mais c'est le langage courant et qui est très parlant. Celui qui se pourrit la vie, eh ben c'est de sa faute, d'une certaine manière, c'est de sa responsabilité. C'est qu'il se fixe sur des choses qui ne le concernent pas, sur lesquelles il n'a pas de prise. C'est Sartre, Jean-Paul Sartre, qui est, comme on dit couramment, le philosophe de la liberté, parce que Sartre, fondamentalement, on peut le qualifier à juste titre de philosophe de la liberté à partir du moment où vous connaissez sa fameuse formule, qui est archi rabattue et trop souvent vidée de son sens, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire qu'en gros, on est ce qu'on se fait être, quoi. Et je rappelle cette formule de Sartre qui résume pour moi ce qu'est la liberté de façon merveilleuse, c'est dans son livre sur Genet, Jean Genet, l'écrivain Genet, son livre qui s'appelle Saint Genet, comédien et martyr, où Sartre dit ceci: Certes, je suis ce qu'on a fait de moi. Le je, c'est tout sujet humain. Certes, je suis ce qu'on a fait de moi. Le on, c'est toutes les déterminations qui pèsent sur le sujet, et qui sont des contraintes. Toutes les déterminations, alors ça peut être de l'ordre du génétique, de l'ordre de l'astrologique, si on veut bien, de l'ordre du conditionnement social, familial, culturel. Certes, je suis ce qu'on a fait de moi. C'est-à-dire, je ne suis pas, de ce point de vue-là, une page blanche. Où s'exerce la liberté de l'homme, et c'est là que c'est essentiel, c'est que le sujet humain peut activement se poser à chaque instant de sa vie la question: qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi? Qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi? Et c'est la seule question à se poser, me semble-t-il, pour avoir une vie libre. Qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi? De manière, c'est en correspondance directe avec la conception de la liberté des stoïciens. fondamentalement. Donc voilà, en quel sens, je n'insiste pas plus là-dessus parce qu'il faut avancer, en quel sens on peut entendre profondément que le stoïcisme est une morale, une philosophie de la liberté du sujet humain, et pourtant dans un contexte socio-culturel de société holiste. C'est-à-dire de société où le tout prédomine, contrairement aux sociétés modernes qu'on connaît, qui sont des sociétés individualistes, hein, définies comme cela anthropologiquement, où ce n'est pas le tout qui prédomine, mais c'est chaque élément, chaque atome, c'est chaque individu. La société grecque antique, comme la société romaine, sont des sociétés holistes ou holistiques, parce que la totalité prédomine sur chaque élément, mais ces morales stoïciennes comme épicuriennes sont véritablement des philosophies qui inventent le sujet individuel libre. Et ce qui est très intéressant et qui va rejoindre complètement la pensée d'un Emmanuel Lévinas, l'autre grand philosophe contemporain à mes yeux, Lévinas qui considère que le sujet individuel naît de la responsabilité est fondamentalement éthique. Toute la philosophie de Lévinas considère que c'est l'éthique, la morale, définie. Alors lui, il l'a définie un peu différemment que la morale stoïcienne, mais on peut là rapprocher les choses. C'est la morale, la conception éthique de la liberté qui fonde l'individu ou le sujet individuel libre. Voilà. Que ce n'est pas une question ontologique, si je reste sur des termes un petit peu techniques et jargonneux philosophiques. Ontologique, c'est ce qui relève de la nature de l'être, d'une réflexion sur l'être. Ontologique, ça vient de ontos en grec, qui est le participe présent du verbe ein, qui est le verbe être. Voilà. Donc c'est pas la question de l'être que par nature, par essence, on est libre ou on n'est pas libre. C'est la question morale, donc de l'agir en réalité. Et d'ailleurs, Sartre développe cela parallèlement à Lévinas, mais il y a des convergences profondes. La liberté se joue. C'est une question pratique. Ça se joue dans ce que Sartre appelait la praxis, qui est un terme grec, praxis, c'est la question de l'agir en conscience, de l'agir libre. C'est-à-dire la question de l'existence et pas la question de l'être, pas la question de l'essence. Et les stoïciens raisonnent de cette façon-là. Voilà, donc reposer donc l'enjeu de cette distinction fondamentale entre ce qui est à notre portée et ce qui n'est pas à notre portée. Alors, poussons un cran supplémentaire autour de cela, et notamment on le retrouve dans les textes qu'on avait abordés l'autre fois. Ce qui n'est pas à notre portée nous a seulement été prêté. Ce qui est à notre portée nous a été donné. C'est de l'ordre d'un don, alors que dans l'autre cas, c'est de l'ordre d'un prêt. Alors, donné par qui, prêté par qui? Peu importe, je dirais. On peut le décliner de façon très différente. On peut dire que, certains vont dire que c'est la nature, donc d'autres vont dire que c'est le destin, d'autres vont dire que c'est les parents. Et les stoïciens notamment disait que c'était le dieu, c'est-à-dire Zeus. Et donc, dans le manuel d'Épictète, c'est clairement écrit noir sur blanc, donc ce qui nous a été donné, c'est Zeus qui l'a donné, ce qui nous a été seulement prêté, c'est Zeus qui a prêté. La conséquence de cela, enfin, il y a plein de conséquences qui sont très intéressantes. La conséquence de cela, c'est que ce qui nous a été prêté, il ne faut pas se mortifier, être blessé, être perturbé, son eau le reprend. Mais alors ça va des choses matérielles aux choses les moins matérielles. Les choses matérielles, Épictète dit, et ça c'est apprendre la vie, il faut apprendre à supporter qu'on nous ait volé des objets. Que l'esclave avec qui travaille sous nos ordres nous ait piqué une belle poterie. Il faut l'accepter et ne pas se fixer là-dessus. Pourquoi? Parce que la poterie qu'on nous vole, et ben c'est qu'elle nous a été reprise, elle nous avait été prêtée, et on l'a rendue. Et ce que dit Épictète, et si on y réfléchit, c'est très fort cette idée-là. Il ajoute, peu importe par qui le Dieu a repris ce qu'il nous a prêté. Même si c'est un voleur, peu importe, ça ne doit pas nous affecter, nous, dans notre âme. Alors, autre chose est que le voleur, ce n'est pas une espèce de morale politique du laxisme. Ce n'est pas que ça. C'est pas seulement ça, je crois profondément que ça nous affecte parce qu'on ne supporte pas, on considère que c'est à toi et qu'on est dépossédé de quelque chose.
Mais on ne se permet pas non plus d'aller prendre quelque chose à côté.
Alors là, la réponse des stoïciens qui retrouvent, et ce qui fait écho à la morale de Lévinas, ça c'est l'affaire de l'autre. On n'a pas à se préoccuper si l'autre n'agit pas comme nous, on pense qu'il faille agir. Ça ne dépend pas de nous. L'agir de l'autre ne dépend pas de nous. Donc on n'a pas à porter un quelconque affect, un quelconque sentiment, un quelconque jugement affectif ou intellectuel ou politique ou moral sur la conduite de l'autre.
Alors, se situe l'éducation.
Voilà.
Ah ben, l'éducation, c'est autre chose. Et le manuel d'Épictète, on peut dire que c'est un manuel d'éducation. Il s'adresse à un tu. Le tu est anonyme, hein, je le rappelle. Souvent, il y a des formules du type rappelle-toi, ceci, cela. Voilà. Et c'est ce qu'il appelle les progressants, ce qu'on traduit le mieux en français comme les progressants. Les progressants, c'est tous ceux qui veulent être éduqué, gardons ce terme, même si ce n'est pas un terme qui est véritablement utilisé dans le texte grec, mais néanmoins, il me semble qu'une fois ou deux, il utilise quand même le mot paideia, qu'on traduit par enseignement, qu'a donné le mot pédagogie. En fait, paideia, ça vient d'enfant, hein. Pédagogie, paiden, c'est l'enfant. Et gogie, c'est gogène, c'est le verbe qui veut dire conduire. Donc la pédagogie, c'est conduire l'enfant vers un objectif. Donc au contraire, il y a un enseignement. Le stoïcisme, c'est une école. Mais l'enseignement, c'est précisément de ne pas avoir à juger du comportement de l'autre, même si ce n'est pas le comportement qu'on estime raisonnable, conforme à la raison, conforme à nos principes.
C'est transitoire.
C'est tout un exercice mental à acquérir,
et
ça.
Et je me dis, bon, bah, ok, c'est
fait. L'animal est un être parfait, qui atteint la perfection, parce que l'animal est un être dont les attributs, dont les qualités correspondent, coïncident parfaitement à ce qu'il a à faire sur Terre. Dans l'existence. Autant l'homme est un être imparfait. Est un être imparfait, donc un être en tension vers un devenir-être. C'est pour ça que l'homme ne peut pas se définir ontologiquement de ce point de vue-là. Qu'il y a de la liberté, l'animal n'est pas libre, je suis désolé. Là, c'est pas parce qu'on laisse un chien vagabonder qu'il sera libre. Non, c'est une fausse idée de ce qu'est la liberté. L'homme est libre parce qu'il est imparfait. Donc, de ce point de vue-là, les principes de la morale stoïcienne ce n'est pas donné, c'est pas tout cru, c'est pas on absorbe ça comme ça et c'est voilà, c'est tout un travail, tout un effort, une tension vers. Ça c'est la première réponse que je peux te donner.
L'exemple de Socrate, bon.
Ah ben le stoïcisme d'ailleurs. Socrate est cité dans le manuel d'Épictète. Le stoïcisme s'inspire largement de la figure socratique, très clairement.
C'est lui qui... Voilà.
Donc, pour terminer sur la question du prêt et du rendu, ça va effectivement, je le rappelle, jusqu'à quelque chose qui est encore plus dur à penser que l'histoire de la cruche ou de la poterie qu'on nous vole, c'est-à-dire que le décès d'un proche, et même d'un enfant, il prend cet exemple-là, il faut tout l'exercice stoïcien consiste à pouvoir intégrer l'idée que l'a rendu, que il nous appartenait pas ce fils.
Non.
C'est zen.
Non, du tout. Alors,
c'est la même chose.
Le zen bouddhiste.
Oui, le zen bouddhiste.
Devant toi, en jambes bleues et pour oui. Au chemin.
Mais on pourrait dire qu'il y a des rapports, des proximités avec la philosophie orientale. Ça, c'est juste. Et on ne le sait pas parce qu'on manque d'éléments, mais je l'avais rappelé l'autre fois. Souvenez-vous que le stoïcisme se développe à partir de la période hellénistique. A fortiori après l'Empire romain, la période hellénistique qui est après la constitution de l'Empire d'Alex de Macédoine. Hein. Macédoine est l'Empire d'Alexandre le Grand et qui va jusqu'en Inde, jusqu'à l'Indus, qui est ce fleuve qui traverse le nord de l'Inde et qui après longe à peu près la frontière actuelle du Pakistan. Donc il y a eu un melting pot à l'époque. Hein. Rappelez-vous, j'avais évoqué ça. On est dans un monde qui a plein de caractéristiques similaires aux nôtres aujourd'hui. Il y a une forme de mondialisation à l'époque et de melting pot. C'est-à-dire qu'il y a un brassage de population, il y a des mouvements d'immigration. Ce n'est pas qu'une invention récente. Et d'autre part, il y a des circulations d'idées, de cultures. Donc il n'est pas impossible, même si on en est réduit à surtout des hypothèses, qu'il y a eu un frottement de la pensée grecque aux pensées orientales. Ce n'est pas du tout à exclure. Ce qui est clair, ça on le sait, c'est que les ésotéristes, les pensées mystiques égyptiennes étaient parfaitement connues des Grecs, et ça des Platons, par exemple, ça on le sait. Platon avait même fait un voyage qu'on pourrait qualifier d'ethnographique en Égypte. Donc qu'il y ait des similitudes, voire des convergences avec les pensées orientales telles que le bouddhisme, n'est pas du tout aberrant ni surprenant. Quoi. Sur l'histoire du prêt, mais qui va jusqu'à cette conséquence quant à la manière de faire face à des événements, même les événements les plus sombres de l'existence, tels que le décès de son fils ou de sa fille. Par contre, le don. Zeus nous donne, donc ça c'est la partie mythologique qu'on retrouve dans toute la pensée grecque. Dès Platon, on voit le recours au mythe grec. Mais la différence entre une pensée magique, toute la philosophie, c'est un arrachement à la pensée magique qui est représentée par le discours mythologique. Platon utilise des mythes, mais comme matière, je dirais presque métaphorique, pour penser, pour amener une pensée rationnelle. Les stoïciens font pareil. Donc, cette histoire de Zeus, il faut l'entendre comme un mythe, c'est-à-dire une pensée métaphorique, on pourrait dire aussi poétique, à laquelle Épictète, par exemple, a recours. Mais il ne s'agit pas de s'enfermer dans le mythe, c'est-à-dire le magique, la pensée magique. Et d'ailleurs, il y a des, il y a des passages extrêmement critiques de la pensée d'Épictète dans le manuel contre les dérives des pensées vers le magique. Par exemple, ce qui est de l'ordre du ressentiment par rapport à des événements, des circonstances de la vie sur lesquelles on ne maîtrise pas, qui ne sont pas à notre portée, ce qu'il appelle le ressentiment, pour lui, ça relève de la pensée magique. Je crois que c'est très profondément vrai, et je me lasse pas de répéter toujours que l'homme de ressentiment verse inéluctablement vers le fascisme et le nazisme. Et je renvoie un très beau livre écrit au moment du nazisme en Europe par Karl Jaspers, qui est un grand philosophe de langue allemande suisse, Karl Jaspers, qui a été commenté dans un très bon article par Maurice Merleau-Ponty, vous savez, le grand philosophe qui a été très proche de Sartre. Ils avaient cofondé ensemble la revue Les Temps modernes, qui a fait un article magnifique sur, à partir du livre de Jaspers, sur l'homme de ressentiment, où il montre que l'homme de ressentiment, c'est forcément un homme qui a des pensées qui vont déraper vers l'idéologie nazie. Entre parenthèses, c'est tellement vrai quand on considère aujourd'hui les gens qui versent dans le Front National ou même à travers l'Europe, toutes ces pensées extrémistes, c'est précisément des gens de ressentiment, quoi. Eh bien, on le retrouve, ça, chez
l'auteur des livres, là.
Je ne sais plus où il est, qui est plus court et qui est lumineux, de Maurice Merleau-Ponty, qui doit s'appeler « L'homme de ressentiment » chez Karl Jaspers. Alors, il y a deux étapes dans ce que j'ai dit. De façon contemporaine, Jaspers, Merleau-Ponty ont montré comment l'homme de ressentiment virait vers le nazisme, pour le dire vite. Or, le nazisme, c'est quoi? Profondément, c'est une pensée magique. Quand on observe les grands mouvements d'adhésion des foules et la façon dont a été mis en place la stratégie des nazis, c'est précisément des rituels qui relèvent des sociétés magiques, tout à fait. Ça, c'est en amont. Pourquoi le lien entre le ressentiment et la pensée magique? Ça, c'est Épictète qui le dit. Pourquoi? Parce que, précisément, c'est qu'on considère que ce qui... On fait une erreur de jugement. On considère que ce qui ne dépend pas de nous, ça relève du sort, absolument. Et quand on s'en prend au sort, on s'en prend au sort. Et d'où la tentation de développer des rituels, de conjurer le sort. Oui, tu as raison. Ça, oui. Mais dans l'antisémitisme nazi, il y a quelque chose de l'ordre de la pensée magique. C'est-à-dire qu'en gros, le juif, c'est la figure par excellence de celui qui apporte le mauvais sort. Et d'ailleurs, j'ai pu lire des études d'ethnologie sur les campagnes polonaises. Et c'est précisément qui était une société complètement magique, avec des recettes de médecine populaire qui relèvent de la magie, etc. Et clairement, le terreau de l'antisémitisme des campagnes polonaises relève de cette pensée magique. C'est-à-dire que clairement, il y a un excellent roman par un auteur français qui est très connu, qui a des livres moyens et qui a des livres très bons, qui s'appelle Philippe Claudel, qui n'a rien à voir avec Paul ou Paul. Philippe Claudel a écrit ce roman qui s'appelle Le rapport Brodeck. Et c'est un livre qui n'est pas situé dans le temps et dans l'espace, mais qu'on peut parfaitement situer dans un village, par exemple polonais, de l'entre-deux-guerres, un étranger arrive dans le village, parce que c'est un colporteur, c'est un juif, et il est d'abord intégré, mais avec méfiance, et pour finir, il va être tué par le village. lâché. Parce que cette figure de l'étranger, a fortiori le juif, mais qui, ça apparaît comme une figure de celui qui apporte tous les malheurs dans le village, par exemple. C'est lui qui va jeter le mauvais sort dans le village, qui a la capacité de nuire aux autres. Au bouc émissaire, mais c'est René Girard qui a théorisé la figure du bouc émissaire. C'est précisément une pensée magique. Et d'ailleurs, dans la Bible, vous savez l'histoire, que le progrès de l'humanité qui est décrit dans la Bible, c'est quand on passe du sacrifice humain de celui qui apparaît comme portant le malheur, la poisse, et qu'on va sacrifier, qui est le sacrifice des sociétés magiques. Et qu'on sublime cela, il y a un processus de sublimation en transformant ce meurtre de l'autre en une cérémonie socialisée, ritualisée, civilisée, en tuant un bouc, un mouton. D'où l'expression. Et ça tombe bien parce que dimanche dernier, donc, au château de Gaujac, il y avait donc cette rencontre avec Valentine Gobi, qui est cette romancière contemporaine très intéressante qui s'acharne à faire connaître cette grande écrivaine donc, qui est une survivante d'Auschwitz et après de Ravensbrück, qui s'appelle Charlotte Delbo, D-E-L-B-O, qui, pour un tas de raisons sur lesquelles on le passait, est trop méconnue en France, mais qui a écrit une dizaine de livres après la guerre, qui a vécu jusque dans les années 90, je crois. Et sa réponse, elle a survécu. Et sa réponse, c'est absolument pas le ressentiment, justement. Elle s'acharne à être contre leur... Sa réponse, c'est le vivant. C'est le vivant. Et alors, je vais lire tout de suite, parce que je comptais le lire, la prière au vivant, qui est un des poèmes qui est contenu là-dedans, que Valentine Gobi a lu, qui est une réponse stoïcienne, au fond, qui s'adresse aux vivants, à ceux qui n'ont pas connu Auschwitz et qui ne sont pas morts à Auschwitz. Donc ça correspond à ta question. Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. Je voulais le lire un peu plus tard, mais ça tombe bien là. Vous qui passez, bien habillés de tous vos muscles, un vêtement qui vous va bien, qui vous va mal, qui vous va à peu près, vous qui passez animés d'une vie tumultueuse aux artères et bien collés au squelette d'un pas alerte, sportif, lourdeau, rieur renfrogné, vous êtes beau, si quelconquement tout le monde tellement beau d'être quelconque diversement avec cette vie qui vous empêche de sentir votre bus qui suit la jambe, votre main au chapeau, votre main sur le cœur, la rotule qui roule doucement au genou, comment vous pardonner d'être vivant? Vous qui passez, bien habillés de tous vos muscles, comment vous pardonner? Ils sont morts tous. Vous passez, vous buvez aux terrasses. Vous êtes heureux, elle vous aime, mauvaise humeur, souci d'argent. Comment vous pardonner d'être vivant? Comment vous ferez-vous pardonner par ceux-là qui sont morts pour que vous passiez bien habillés de tous vos muscles, que vous buviez aux terrasses, que vous soyez plus jeune chaque printemps? Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Voilà la réponse de l'imploration, qui est une réponse de Charlotte Delbo, et qui, selon moi, est une réponse, elle ne l'a peut-être pas pensée comme telle, je n'en sais rien, mais qui pour moi est une réponse profondément stoïcienne. Profondément stoïcienne. C'est-à-dire que toute sa vie, Charlotte Delbo s'est battue par rapport à elle-même, mais par rapport aux autres, contre justement éprouver un quelconque ressentiment. Et ses écrits, même ces trois tomes, ces trois volumes, hein, à Auschwitz après, hein, c'est, ça c'est le tome 2 qui fait partie de cet ensemble. C'est pas du témoignage plein d'affect, de ressentiment sur voilà ce que les nazis nous ont fait. C'est précisément ce qu'elle écrit là. C'est une réponse de vie. C'est une réponse de vie. Et donc je crois que c'est une façon d'éviter le ressentiment profondément. Ce qui n'est pas donné, ce qui ne va pas de soi, c'est évident. Ça, c'est loin d'aller de soi. Mais c'est une réponse à la tentation du ressentiment et du trouble. Donc, d'une certaine manière, Charlotte Delbault fait sien le fait, cet impératif, de ne se soucier de ce qui dépend de nous. Le sort que les Juifs ont subi, ou les Tzidgan, ou des politiques, ne dépend pas de chacun d'eux. Si chacun avait eu le pouvoir de le nazisme ou de renverser le nazisme, l'histoire aurait été autrement. Personne n'a eu ce pouvoir. Même politiquement, quand on regarde l'histoire politique, ceux qui ont combattu les nazis, je pense au Karl Liebknecht, ils sont tous retrouvés dans les camps. Ça a été un échec complet. Parce que, en termes de rapport de force, l'histoire de l'époque faisait qu'ils n'ont pas eu le rapport de force. Donc, même ceux qui ont tenté d'avoir une maîtrise là-dessus, ils ont échoué. Le rouleau de l'histoire... le bulldozer de l'histoire n'allait pas dans ce sens-là et n'avait pas la maîtrise de cela, quoi. De fait, c'est un constat, là. C'est un simple constat.
Oui, mais leur action... Est-ce que le fait d'avoir...
Alors, du point de vue, justement, de la morale stoïcienne, elle a été utile. Faut agir. Faut vivre, faut agir. Ça, c'est la morale stoïcienne. Donc, elle a été utile. Mais du point de vue de ce qu'on ne maîtrise pas, c'est le rouleau compresseur de l'histoire, ça n'a rien changé. Il y a deux plans, là aussi, c'est ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le rouleau compresseur de l'histoire ne dépend pas de nous, hélas. L'impératif d'agir par rapport à sa morale dépend de nous. Il faut séparer les deux plans. Ce n'est pas du pacifisme.
Il faut agir.
Voilà, il faut agir.
Le Nietzsche qui a écrit le livre, il ne dit pas vous avez.
Ça, c'est stoïcien.
Vous n'aurez pas ma haine.
Vous n'aurez pas ma haine, c'est par excellence stoïcien.
Vous n'aurez pas ma haine, alors.
C'est stoïcien. Les circonstances qui sont de l'ordre de ce qui n'est pas à ma portée, d'accord, font que j'ai une souffrance, comme la douleur physique aussi sur le corps. J'ai une souffrance de l'âme. Je n'y peux rien. Par contre, où j'ai cette capacité d'agir et qui dépend de moi, et ça m'a été donné par Zeus, c'est qu'est-ce que je fais de cela ? Qu'est-ce que je fais avec cette souffrance ? Est-ce que je la creuse à l'infini ? Et d'une certaine manière, si on est honnête avec soi-même, je vais dire quelque chose qui peut choquer, mais pourtant, si on réfléchit, c'est souvent ça. On y trouve il y a une complaisance. Complaisance quand on s'enferme dans une forme de souffrance. Ou soit je tente de la circonscrire et d'affirmer le vivant. C'est ça. Ou ce qui est au pouvoir et dans la liberté du sujet humain et qui relève du don qui nous a été fait. Alors, le don, c'est une parcelle du Dieu. Encore une fois, quoi qu'on mette sous le terme Zeus, Dieu, etc., on n'entre pas là sur ce terrain-là qui n'est pas le même registre de réflexion, d'accord ? Donc, peu importe de quoi il s'agit, cette instance qu'on ne maîtrise pas. Donc, Zeus nous a remis, nous a donné, sans vouloir la reprendre, cette parcelle, qui est cette liberté, cette capacité d'agir sur ce qui va du coup dépendre de soi. Ça, c'est un don. Ça ne nous sera jamais repris. Ce qui veut dire que fondamentalement, la liberté, c'est la responsabilité du sujet individuel. Parce que comme ça nous est donné et que ça ne nous est pas repris, ça ne dépend que de soi. Donc, on doit en répondre. La responsabilité, c'est ce sur quoi on doit répondre. C'est le même mot, hein? Responsabilité, répondre, c'est le même mot. Donc, j'ai à répondre de ce qui m'a été donné, qui ne sera pas repris, qui ne dépend que de moi. Et donc, mes jugements, mes évaluations en toutes circonstances, c'est ma responsabilité et c'est ma liberté. Et c'est là que se joue ma liberté. C'est là que je suis insubstituable aux autres. Je suis irremplaçable, et c'est ce qui fonde mon unicité en tant que sujet individuel. Et c'est là qu'au bout du compte, tu as parlé tout à l'heure d'identité, c'est là qu'au bout du compte, mais ça sera donné au moment de ma mort, je forge mon identité. Mais ce n'est pas avant. C'est une question qui me paraît essentielle. Et pour les stoïciens, c'est très important. La question n'est pas de réfléchir toute sa vie qui je suis. Cette question n'a pas de réponse. C'est un plan ontologique. Qui je suis n'a pas d'importance. Et les stoïciens s'appuient beaucoup sur Socrate là-dessus. Qui Socrate dit quoi ? Je ne suis rien. Partons de l'idée qu'on n'est rien. On sera peut-être au soir de sa vie, on tirera le trait, on fera l'addition. Voilà, j'ai été ça. Voilà, donc sur ces questions, donc vous voyez que c'est des questions extrêmement épineuses et qui amènent à penser contre soi spontanément. Mais c'est ça l'intérêt de la philosophie, c'est qu'on soit amené à penser contre soi. Et c'est ça pour moi la grandeur du stoïcisme, qu'on y adhère un peu pleinement ou pas du tout, c'est que ça conduit à passer contre soi, contre nos pensées spontanées préfabriquées d'aujourd'hui. Et je crois que c'est essentiel. Juste encore une remarque. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée que ça nous est donnée, mais que le Dieu renonce à reprendre, le Dieu se retire par rapport à ce don. C'est une pensée, tu faisais allusion avec les similitudes avec la pensée orientale, mais ça c'est une similitude très troublante avec la pensée hébraïque, la pensée juive, et sur un point qui est central dans le judaïsme, qui est cette notion de tzimtzum. C'est un mot amusant qui se transcrit tel que je le prononce, tzimtzum. En un mot, le tzimtzum, c'est quoi ? C'est ce qui fonde la liberté. C'est le retrait du Dieu. Le retrait, Dieu crée le monde, crée l'homme, etc. D'accord, bon, admettons ça, quelles que soient les formes qu'on met derrière cela. Et Dieu se retire. Se retire, c'est qu'il ne régente plus le monde et les hommes. Et ça fonde la condition humaine de liberté. Et du coup, c'est une notion merveilleuse, d'une certaine manière, c'est qu'il n'y a pas de destin, donc il n'y a pas de magie. C'est pour ça que le judaïsme est une pensée anti-idolatrique, parce que l'idolâtrie, c'est une pensée magique, fondamentalement. L'idolâtrie, c'est qu'on idolâtre l'argent ou un veau d'or, c'est la même chose, c'est une pensée de magie, lève des superstitions, etc. Donc là, on voit une similitude profonde, étonnante, entre le stoïcisme et le judaïsme, et je pense qu'il y a eu des zones de contamination, d'ailleurs, qui s'expliquent historiquement très bien. que la Bible est donc écrite en hébreu, en araméen, a été traduite par Philon d'Alexandrie, qui était un grand philosophe. Elle a été traduite en grec. Alors Philon, c'était moins, là je suis toujours fâché avec les dates, mais c'est moins 200, je crois, ne pas faire d'erreur en disant ça. Je réinsiste sur un aspect qui est important parce que c'est ce qui évite un contresens qu'on fait constamment par rapport au stoïcisme. Je l'ai déjà évoqué, mais j'y réinsiste. C'est le fait qu'on pourrait conclure de tout cela, que le stoïcien prône un repli sur lui-même. On pourrait même dire un repli égoïste, un retrait du monde extérieur. Parce qu'à partir du moment où tout ce qui est extérieur, on n'en a aucune maîtrise, on ne doit pas avoir une maîtrise, du coup, on se replie sur soi. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire, et je le rappelle, je l'ai dit, par exemple, dans la grande période du stoïcisme impérial, c'est-à-dire du temps des empereurs romains, les stoïciens ont figuré parmi ceux qui étaient les plus grands résistants aux empereurs dictateurs, et qui ont dû soit s'exiler, soit qui ont été emprisonnés, voire qui ont été tués. Donc c'est la preuve qu'en réalité, il s'intéressait aux choses de ce monde. Il y a même cet empereur fameux qui, lui, contrairement à d'autres, a été stoïcien, c'est Marc Aurèle. Là aussi, distinguer les niveaux, il y a une belle formule d'un commentateur du stoïcisme qui consiste à dire le repli sur la raison, c'est-à-dire le logos, c'est-à-dire l'âme, permet non pas un repli sur soi, mais rend possible, permet le dépli, si on peut dire, c'est-à-dire le déploiement de l'agir dans notre rapport au monde, à ce qui est extérieur à soi. Vous voyez, c'est pas contradictoire. Si j'osais une formule, mais cette formule, on ne peut plus l'utiliser aujourd'hui, il faut penser en même temps les choses. Bref, donc, le « en même temps », ce n'est pas hasard, et déconnectons-nous des opinions politiques immédiates qui sont somme toute secondaires pour nous intéresser à ce qu'il y a de tenir les deux bouts de la question à la fois. Quoi. Ce que notre pensée trop souvent ne fait pas qu'est une pensée binaire, oui, non, on choisit le oui, on laisse tomber le non. Bon, voilà. Il faut tenir ces deux aspects à la fois, contrainte et liberté. J'ajouterais ça plus concrètement, par exemple, la vie du stoïcien, c'est une vie qui consiste à alterner des moments de solitude, de méditation solitaire et des moments de vie en compagnie des autres, de compagnie. Et l'école stoïcienne est une école où il y avait des temps solitaires et des temps communautaire, quoi. Et notez que ça correspond, et c'est pas un hasard, même si chez eux c'est pas réfléchi comme tel, au rythme de vie d'un écrivain ou d'un créateur. Le créateur, l'artiste, le vrai créateur, je parle pas de celui qui fait de la création conventionnelle, c'est-à-dire pour gagner beaucoup d'argent. Le vrai créateur a des phases nécessaires de solitude complète, de face à face avec lui-même, c'est le temps de la création, et des phases où il éprouve cette nécessité d'être confronté à une communauté. Et la vie stoïcienne, c'est tenir ces deux temps qui doivent s'organiser selon un rythme de l'existence. Et je pense que c'était l'erreur qu'était le christianisme qui a prôné uniquement l'aspect solitude, l'érémitisme, c'est-à-dire les ermites. les stylites a fortiori, ou même, et pourtant j'aime beaucoup, je ne sais pas si on aura le temps de les aborder, les ports royalistes, ce que j'appelle les ports royalistes, c'est un port royal, qui était appelé les solitaires. Je pense qu'ils n'ont retenu qu'une partie de la question. Cela dit, parce qu'il y a un héritage stoïcien à Port-Royal. Cela dit, ce qui est stoïcien chez Port-Royal, c'est qu'à la fois il y avait cette affirmation de la nécessité de la solitude, de l'expérience de la solitude, et en même temps, c'était les plus grands résistants que l'histoire ait connus, à double pouvoir, qui était au sommet de leur puissance, le pouvoir romain du Vatican et le pouvoir royal de Louis XIV. Les religieuses, en plus, c'était au départ un noyau de femmes. Hein. Les religieuses de Port-Royal, c'est les plus grandes résistantes de ces deux pouvoirs qui est au sommet de la puissance. Donc, c'est dire que là aussi, même chez eux, le stoïcisme, c'est à la fois le repli, mais aussi l'agir sur le monde. Bien sûr, le rapport au politique, on va dire ça comme ça, des stoïciens, qui n'est pas un rapport consistant à nier, qui est un rapport qui est agir. Mais agir en n'oubliant pas que ce qu'on maîtrise, c'est là-dessus qu'on doit agir. Et ce qu'on maîtrise, c'est nos jugements portés sur la société, nos réactions par rapport à la société, etc. C'est pas ce que fait l'autre. C'est pas ce que fait l'autre. Et pour illustrer ça, je vais vous lire un très court passage, je crois pas que je vous l'avais donné, d'un grand bonhomme contemporain qui est mort il y a quelques années, enfin il y a un certain nombre d'années, qui est George Friedman, F-R-I-E-D-M-A-2-N. George Friedman, c'était un grand philosophe et sociologue qui a été très engagé à gauche, qui croyait beaucoup... Oui, il est mort en 77. Il est né en 1902 et il est mort en 77. Et il est surtout connu comme fondateur d'une sociologie du travail et d'une sociologie du travail humaniste. C'est-à-dire qu'en gros, il a fait beaucoup d'analyses critiques sur... un de ses livres s'appelle « Le travail en miettes » sur l'essor du taylorisme et de la partialisation des tâches et du travail à travers le taylorisme comme étant un facteur d'aliénation terrible. Vous savez que on est passé de l'ouvrier artisan autonome, c'est-à-dire l'ouvrier étant amené à faire de lui-même toute une séquence de travail de A à Z. C'est un ouvrier artisan. On est passé à cela, de cela, qui était l'ouvrier de la fabrique, à l'ouvrier, l'ouvrier spécialisé OS. Ce qui est une ironie, parce qu'il y a un contresens qu'on fait, on pense que spécialisé, c'est une compétence. L'ouvrier spécialisé, c'est l'ouvrier parcellisé, qui n'est réduit qu'à une seule tâche.
Dans une seule tâche.
Voilà. Voilà, c'est ce que montre très bien ce petit livre de Robert Linhart, qui est devenu un classique à la fois de la sociologie du travail et de la littérature, qui s'appelle L'établi, qui est paru chez Minuit, qui est un livre qui montre magnifiquement bien ça à partir de l'exemple du fonctionnement d'un atelier des usines Citroën du Quai de Javel à l'époque à Paris. Friedman, voilà, toute sa vie, il la consacre à cette sociologie du travail, ce qui ne l'a pas empêché de garder des préoccupations très philosophiques. Et notamment, il a publié ce livre qui est quelques années avant sa mort, qui s'appelle « La puissance et la sagesse », qui est un peu bilan, y compris un bilan politique, mais qui est un livre de nature philosophique, parce que Friedman a été très engagé comme intellectuel marxiste qui croyait à la révolution, etc., jusqu'à ce qu'il réalise que la Russie était une impasse, quoi. Enfin, l'URSS, pardon, était une impasse. C'est quelqu'un de grande valeur. Et il dit ceci qui est profondément la réflexion stoïcienne par excellence par rapport au politique et à l'agir politique, qui est un tout petit passage que je vous lis, qui est extrait de La puissance et la sagesse, justement. Il dit ceci, qui est un certain nombre de prescriptions, je dirais, stoïciennes, éthiques, dans la vie. Prendre son envol chaque jour. S'élever, hein. Au moins un moment qui peut être bref. C'est en ce sens-là qu'il répond de façon stoïcienne à ta question, Eric, mais les affects, ça pèse, ça englue. Ben, ne serait-ce qu'un instant qui peut être bref, prendre son envol, s'arracher, pourvu qu'il soit intense. Chaque jour, un exercice spirituel. Seul ou en compagnie d'un homme qui lui aussi veut s'améliorer. C'est incroyable. C'est écrit en 70, on croirait, de l'Épictète, quoi. Exercice spirituel, sortir de la durée. S'efforcer de dépouiller tes propres passions. Les vanités, le prurite de bruit autour de ton nom, qui de temps à autre te démange comme un mal chronique. Ce qu'on pense de toi, les calomnies, les... Fuir la médisance. Dépouiller la pitié et la haine. Vous n'aurez pas ma haine. Aimer tous les hommes libres. S'éterniser en se dépassant. Cet effort sur soi est nécessaire. Cette ambition juste. Nombreux sont ceux qui s'absorbent entièrement dans la politique militante, la préparation de la révolution sociale. Et là, ce qu'il conclut est décisif. Je pense que ça explique, c'est une façon stoïcienne d'expliquer tous les échecs des révolutions. Rares, très rares, ceux qui, pour préparer la révolution, veulent s'en rendre dignes. Et je crois que ça résume tout. C'est ce qui explique que les plus grands et sincères révolutionnaires, que ça soit de Robespierre à Lénine, n'étant pas stoïciens ou autre chose, peu importe, et ben une fois qu'ils ont réussi momentanément, ont échoué. Parce qu'ils sont devenus des dictateurs, ils ont eu une ivresse du pouvoir sur autrui, etc. Rares, très rares, ceux qui, pour préparer la révolution, veulent s'en rendre dignes. C'est-à-dire que l'agir politique, c'est déjà agir sur ce qu'on maîtrise le mieux, c'est-à-dire sur nos représentations, nos jugements, sur notre évaluation des situations. Puis vous assurez même, par rapport à notre minable expérience depuis les années 70, hein, que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Si chacun dans nos engagements, on avait intériorisé ces préceptes, la révolution n'aurait pas été au mieux un guignol, au pire une tragédie. Entre parenthèses, quand il dit « aimer tous les hommes libres », on retrouve là l'idée que la liberté, elle est fondée par la morale. Donc voilà une façon à la fois contemporaine et antique de penser quel peut être l'agir politique. Et c'est là que c'est probablement la grandeur de la pensée philosophique par rapport à la pensée historique. C'est qu'il y a quelque chose d'atemporel dans la pensée philosophique. C'est-à-dire qu'en gros, des pensées, des écrits de 2000 ans, 2500 ans, nous parlent encore directement aujourd'hui. Et à George Friedman, c'est qu'il était en résonance immédiate avec ses pensées des stoïciens. C'est lié à une époque. Il y en a d'autres dans cette époque, et notamment des grands sociologues français qui étaient les deux à la fois. Je pense, par exemple, à quelqu'un que je fais là encore un lien, c'est pour ça que je pense à lui, avec Charlotte Delbault, qui est Henri Lefebvre. qui a été un très grand sociologue, alors lui plutôt de la vie, de la ville. C'est un des fondateurs de la sociologie urbaine. Avec Paul-Henri Chambard-Deloff, qui, comme par hasard, tout converge, hein, était le grand compagnon et mari de Marie-Josée Chambard-Deloff, dont a parlé Charlotte Delbault, qui lui aussi a été un sociologue urbain. Et tant Henri Lefebvre, dont Charlotte Delbault a été, après son travail avec Louis Jouvet, a été l'assistante, la secrétaire, mais au sens fort du terme, l'assistante, quoi. Elle a travaillé pour Henri Lefebvre, et ce n'est pas un hasard. Henri Lefebvre, comme Paul-Henri Chambard-Deloff, ont été des sociologues à peu près de la même époque que George Friedman. Chambard-Deloff a vécu un peu plus longtemps que Friedman, mais peu importe. Qui était en même temps philosophe profondément et de formation philosophique et sociologue. Donc, vous voyez à partir de cela que, comme ce n'est pas donné d'avance, tout cela, ça suppose ce que Friedman appelle des exercices spirituels. C'est-à-dire que c'est encore une fois un but à atteindre, un idéal, on va dire comme ça, à atteindre, d'avoir une vie morale conforme aux règles. D'où le fait que, je l'ai déjà dit, que ce manuel, c'est un outil, c'est une arme de guerre. Hein. Vous savez que c'est un petit couteau qu'on a dans la poche, quoi. Et qui permet de trancher dans les situations, de distinguer, d'éviter la confusion de l'esprit. Et voilà. Donc c'est un travail, c'est un effort permanent, si vous voulez. Dont les exercices répétés permettent l'accès progressif. Donc ça se joue sur trois registres, qui sont les trois strates, les trois parties du livre. Ça se joue sur le registre du jugement, de la discipline des jugements. Ce sont des disciplines. Donc là, comment s'exercer ? Enfin, il s'agit de s'exercer, d'avoir une discipline qui sont la maîtrise de ses jugements, c'est-à-dire de ses évaluations des situations, de ses représentations du monde. Par rapport aux représentations, on en a quand même pas mal parlé, donc pour faire vite, je serai très bref et je résumerai le problème en rappelant qu'en grec, un des mots qui peut dire représentation et qui est utilisé, ou image, hein, des images, des représentations, et qu'utilise le langage grec d'Épictète, c'est fantasia. Ça résume tout, c'est qu'en gros, le grand danger des images que l'on se fait, des circonstances, du monde, de la vie, c'est d'être dans la fantasia. Et vous voyez le lien avec la magie, justement, les pensées magiques. Si on est dans la fantasia, on pourrait traduire ça aussi par fantasme. Eh bien, forcément, on va s'égarer. On va être prisonnier, on ne sera plus libre. L'homme qui est prisonnier de ses fantasmes, de ses fantasias, n'est pas un homme libre. Donc, tout l'enjeu de s'exercer à se déprendre des représentations, des images, des fausses évaluations qui nous amènent à une confusion. Peut-être pourrait-on dire, je dis bien peut-être et je n'engage pas le débat, que l'analyse est une façon d'exercer ce travail. Peut-être je vous livre la question. Je rappelle que Lacan a essentiellement réfléchi à partir de la philosophie, que les stoïciens lui étaient loin d'être étrangers, que Lacan avait fait partie d'un cercle d'intellectuels des années 50 qui l'a formé profondément, qui est un cercle où on retrouvait Lévinas, où on retrouvait le frère de Lacan qui était un moine franciscain, et d'autres. Et que donc c'était le cercle d'Orsay, ça s'appelait, parce qu'il se réunissait à Orsay, près de Paris. Et je pense que tout ceci a considérablement formé la pensée de Lacan, entre parenthèses. Donc, ce n'est pas après tout un hasard si on peut trouver des convergences possibles. Donc, cette discipline du jugement, des évaluations, pour se libérer des fantasias, des fantasmes, ce qui recoupe le mythe de la caverne, l'allégorie de la caverne de Platon entre nous soit dit. Alors, ces fausses évaluations, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est ce qui est de l'ordre de l'opinion, de la doxa, de toutes les idées préconçues, les clichés, les idées toutes faites, qu'on a assimilées et qui ne dépendent pas de nous, qui sont le produit de l'extérieur, au fond, fondamentalement. Que ça soit un extérieur qui vient de notre histoire personnelle, un extérieur qui vient de notre famille, des milieux sociaux dans lesquels on navigue, de la culture, de la société, etc. C'est-à-dire qu'au fond, tout l'effort de la discipline du jugement va consister à exercer, grâce à la raison, l'exercice critique de la critique. Et la critique au sens fort du terme, qui vient du mot grec krisis, qu'on peut transcrire K-R-I-S-I-S, la krisis, qu'a donné en français le mot crise, par exemple. Hein. Une crise, c'est un chamboulement, un bouleversement. Voilà. Il faut chahuter le bel ordre mental que l'on a, qui résulte de nos fantasias, de nos images toutes faites, de nos clichés, tout ce qui nous meut souvent malgré nous. Qui fait qu'en fait, on agit, on pense, on parle en aveugle, alors qu'on croit, illusion suprême, que c'est « je » qui agit, « je » qui pense, « je » qui parle. S'il n'y a pas cet exercice critique en permanence, on est dans cette illusion fondamentale d'un je qui est usurpé. La fameuse expression d'un Lacan ou autre, c'est pas je parle, ça parle. C'est pas moi qui parle. Je ne suis qu'un je, un je manipulé, un faux je. Donc on n'est pas un sujet libre. Donc tout l'enjeu, c'est cet exercice critique. Et ça, ça nous est donné. Ça, c'est quelque chose qui est à notre portée. S'il y a, alors, dans le stoïcisme, il y a quelque chose qui est central, c'est la volonté. Faut le vouloir.
Et l'importance de l'étude, alors.
Et ce qu'on retrouve est l'importance de l'étude, bien sûr. Et la question de la volonté, on le retrouve chez un penseur beaucoup plus tardif qui a beaucoup marqué Nietzsche, d'ailleurs, entre deux soit dit. C'est Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Il parle de représentation et de volonté. Donc, la volonté, pour le stoïcien, c'est essentiel. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et ceux qui considèrent qu'en fait, la volonté, c'est un leurre, sont enfermés.
Ceux qui n'ont pas considèrent que c'est un...
Alors, attention, la puissance et la sagesse, nous dit Friedman. Avoir affirmé, s'exercer à son vouloir, affirmer sa volonté, c'est pas pour autant être dans la toute-puissance. Juste, entre parenthèses, ça permet de faire une transition. La toute-puissance, c'est de l'ordre du désir, pas de la volonté. Du terrain du désir. Attention. Voilà, Donc, par rapport, par exemple, au malheur qui nous arrive dans la vie, on ne maîtrisera pas les circonstances malheureuses. Ça nous tombe dessus. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, mais il faut le vouloir, et c'est de l'ordre de cet exercice de la liberté, c'est la représentation que l'on a de notre malheur. Le jugement que l'on a, que l'on porte sur notre malheur. Et c'est là que se joue la liberté et c'est là que l'on a une possible voie de passage. Autrement, on est dans l'aporie, ce que les Grecs appellent l'aporie. Aporos, c'est un terme au départ qui définissait le chenal des ports, les ports maritimes. C'est le passage. Poros. Hein. Poros, c'est le passage. L'aporie, c'est l'absence de passage. C'est l'impasse. C'est un terme que utilisent beaucoup les Grecs. Le dernier grand philosophe néoplatonicien qui est un sommet de la pensée qui vivait au 5e siècle, mais que je ne vous recommande pas de lire comme ça. C'est très dur, il fait. Le sous-titre de son grand livre, qui en français se traduit « Des premiers principes », s'appelle « Aporie et résolution ».« Aporie et résolution ». Donc, l'aporie, c'est précisément comment on s'enferme dans ce qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire face au malheur qu'on ne maîtrise pas, ressasser. La résolution, c'est comment on déplace la question. On ne va pas supprimer le malheur. On ne va pas le supprimer. Il est là. La résolution, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on affirme le vivant et donc sa liberté avec, sans s'y engluer, c'est-à-dire sans être prisonnier, sans être aliéné. Le malheur nous fait autre. C'est l'altération suprême. C'est une altérité suprême qui est aliénation. Comment de cette altérité qu'on ne maîtrise pas, l'altérité c'est par définition ce qui nous échappe, c'est l'autre, dans tous les sens du terme, autre. C'est, je l'ai déjà dit, c'est ce qui peut correspondre, pour faire là aussi un rapprochement, au réel tel que Lacan le définit. Le réel tel que Lacan le définit, qui n'a rien à voir avec la réalité, si vous voulez. Le réel, c'est ce qui nous échappe. C'est l'altérité. Mais comment n'être pas aliéné par l'altérité ? Comment l'altérité ne devient pas aliénation, c'est-à-dire suppression de la liberté. C'est toute la perspective du stoïcisme. C'est de déplacer le terrain sur lequel on se mobilise, on mobilise notre esprit. Et le terrain sur lequel on mobilise notre esprit, c'est pas sur cela, c'est sur comment on fait avec ça, comment on vit, comment on est dans le vivant. C'est Charlotte Delbault. Encore une fois, c'est essentiel. C'est ce qui justifie notre vie, en fait. C'est cela. Je vous en supplie, faites quelque chose, apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit. Et surtout, les morts nous reprocheront toujours, et même si on pleure un mort proche, il nous reprochera qu'on vive, qu'on lui survive, sans rien faire de notre vie. Profondément, c'est l'idée de survie, mais au sens fort du terme survie. Pas la survie. Le mot survie, dans le langage courant, c'est une petite vie. C'est justement ressasser le malheur. La survie, c'est ce qui est au-dessus de cette petite vie. C'est l'élévation au-dessus de la petite vie que nous promet le malheur. C'est ça la survie profondément. La culpabilité, il y a deux façons de la considérer, une façon faible et une façon forte. La façon faible, par rapport au survivant d'Auschwitz, c'est celle qui va conduire au suicide. Primo Levi. Oui, mais parce qu'il n'a pas résolu sa question de la culpabilité. La façon forte, c'est celle de Charlotte Delbault. Or, la façon faible, elle correspond à quoi? Elle correspond précisément à l'englument dans ce qui ne dépend pas de soi. C'est le fait qu'on survive, ça ne dépend pas de soi.
On n'a pas tous les éléments pour les gens.
Le suicide, c'est une question énorme, donc on ne va pas la traiter. Je dirais simplement que le manuel d'Épictète dit clairement que le suicide est une faute morale. C'est un échec par rapport à l'idéal
de la liberté.
Pardon ?
C'est le plus haut degré de la liberté aussi.
Non. Non, non, non. Au contraire, le suicide, c'est... Non, 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 non. Il y a des... Je retrouvais, par exemple, un passage, mais clairement... Pourquoi ? Parce que le suicide... Terminons le raisonnement. Le suicide est l'impasse qui résulte de l'englument dans la... Un obstacle que le stoïcisme pointe bien et qu'on retrouve formulé clairement dans le manuel, un obstacle majeur à ce que l'on reste mu, que notre âme reste mu par son niveau supérieur, l'hégémoticone, c'est-à-dire qui obéit au logos, à la raison. Il y a un obstacle qui est que nos jugements ne soient pas déviés, englués par nos fantasmes, par l'affect, par les opinions courantes qu'on a tellement intériorisées qu'elles nous paraissent évidentes, naturelles entre guillemets. L'obstacle majeur que voit le stoïcisme, ce n'est pas tant la force des affects, la force des passions. L'obstacle majeur, c'est la force de l'habitude.
Absolument.
C'est l'habitude contre quoi on doit lutter le plus férocement, parce que c'est le principal obstacle. Mais y compris l'habitude comme ce qui nous a fait cultiver notre affect. Qui fait qu'on s'est, d'une certaine manière, auto-conditionné par des espèces d'attitudes réflexes, qui est que toujours on va reproduire les mêmes choses, les mêmes réponses. Donc ça, pour le manuel d'Épictète et pour les stoïciens, l'habitude, c'est ce qui est la force la plus redoutable. Alors, c'est pour cela que contre l'habitude, qu'est-ce qu'on peut opposer? Eh bien, une autre habitude. Force contre force. D'où l'importance de s'exercer, de l'exercice spirituel. Oui, si on veut bien. C'est force contre force, force de l'habitude contre une autre force d'habitude qu'on produit soi-même. Mais ce qui est intéressant, retrouvons Socrate qui inspire tout cela. Socrate dit bien, contre ses interlocuteurs qui sont des gens bien nés, etc., Alcibiade et autres, il dit, moi je suis un gueux. Il dit, je suis un gueux moi. Mais je suis un gueux non seulement au sens économique du terme, matériel, social, mais je suis un gueux en termes de culture. Je ne suis pas un homme cultivé. Je ne suis pas un aristocrate de la culture. Socrate dit, je n'y connais rien, je ne connais rien, je suis un gueux. Profondément, c'est ce que dit Socrate. Mais au gueux est donné de pouvoir s'arracher, de pouvoir s'élever. Et c'est pas parce qu'on est bien né que tout nous a été donné.
Il y a des aristocrates de l'orgueil, non ?
Oui, mais la différence, c'est que Diogène, il vire vers une philosophie qui est le cynisme. Les stoïciens, encore une fois, pensaient à ce qu'a écrit George Friedman, qui nous parle plus directement. Ils articulent avec des préoccupations du monde dans lequel ils vivent. Ce n'est pas un ermite, le stoïcien. Diogène, d'une certaine manière, est un ermite. Quoique encore, c'est plus compliqué parce que c'est un ermite dans la cité et qui n'hésitait pas à provoquer la cité. Donc, en même temps, c'est plus un marginal qu'autre chose. une revendication de la marginalité. Donc c'est encore pas tout à fait le bon exemple. Donc les habitudes qui nous amènent à des faux réflexes, des raisonnements faussés dans les situations de la vie, à des comportements déviés, faux, qui nous mènent en impasse. Voilà le principal ennemi, et voilà contre quoi faut lutter en opposant peu à peu d'autres habitudes. Et ça passe par des choses très mécaniques, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir ça dans sa pensée pour, dans une situation donnée, penser à quel est le bon réflexe. Même sur l'exemple qui fait le plus réagir, qu'on a déjà évoqué, de la mort, du rapport à la mort. La façon qu'on a de réagir à la mort, je suis désolé, mais si on prend le recul, c'est une question d'habitude. La meilleure preuve, c'est les livres des historiens, comme Philippe Ariès, qui est un grand historien des mentalités, qui a fait une histoire de la mort, des représentations de la mort. La mort, c'est un fait culturel, c'est qu'on ne raisonnait pas du tout par rapport à la mort dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, au XVIe siècle et aujourd'hui. Or, c'est quoi ? Si la mort évolue selon les périodes de l'histoire, ça veut bien dire que c'est un habitus, comme aurait dit ton copain, Bourdieu. Comme aurait dit Pierre. C'est forgé, c'est des habitudes acquises, d'accord ? Même notre rapport à la mort, c'est de l'ordre de l'habitude acquise. Même ce qui paraît le plus saisissant, le plus extrême des malheurs, relève aussi de l'habitude. Pas le fait lui-même, qui ne dépend pas de nous, encore une fois. Et on est dans une société, on le verra, qui nie cela, c'est-à-dire qui pense que tout peut dépendre de nous, y compris la mort. Le rêve, qui est une fantasia d'immortalité de l'homme, on est englouti des milliards aujourd'hui. Hein. Et les grands GAFA, comme on dit, ces grandes multinationales de l'électronique, de l'informatique, investissent de l'argent pour prétendre qu'on peut atteindre l'immortalité. C'est-à-dire supprimer la mort, donc que la mort dépendrait de nous. Et c'est là qu'on voit qu'on est assez lamentable de nos jours, quand même. Sur cette question de l'exercice du jugement, la discipline du jugement, je l'ai déjà évoqué, je reviens un instant dessus. Le fait que nos contemporains, dans notre période contemporaine, on prétend tout maîtriser. On prétend qu'il n'y ait pas de distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Qu'on ne renvoie pas ce qui nous est que prêté à une instance extérieure. Dieu, le hasard, la nature, peu importe, Zeus, peu importe. Mais qu'on prétende trop souvent aujourd'hui qu'au contraire, tout ça dépend de nous. Donc, que les agissements des autres dépendent de nous, ça va aboutir à... C'est ce que je disais l'autre fois. Le fait, on peut le dire en termes chrétiens, ou en termes... Peu importe, on n'est pas dans le religieux. Qu'il n'y ait plus d'instance du jugement dernier dans nos pensées communes, dans notre doxa. On n'est plus dans un monde où il y a l'instance ultime du jugement dernier. Ça fait qu'il y a un déferlement du jugement qui apparaît comme ce qui est propre à chacun de nous. Donc aujourd'hui, tout le monde juge tout le monde. Tout le monde juge tout. On a des jugements sur tout. On va juger de tout, et la télé et les médias nous aident, si j'ose dire, largement à cela. Ah ben ça, c'est la partie du jugement négative qui renvoie au fait que on n'exerce pas notre critique, notre discipline du jugement. C'est-à-dire qu'on juge ce sur quoi on n'a aucun pouvoir. Et je voudrais juste raccrocher à ce très beau livre de Paul Audy, qui est ce philosophe contemporain, dont le titre est « Qui témoignera pour nous ?», qui est en fait une analyse d'Albert Camus, de la philosophie, de la pensée d'Albert Camus. Et ce qu'il montre, et c'est une lecture originale de Camus, et pourtant je ne peux pas dire que j'aime beaucoup Camus, j'aime Camus comme écrivain, comme philosophe, j'étais plutôt sartrien que du côté de Camus, bon, peu importe. Mais Camus a quelque chose de très intéressant et que Paul Audy éclaire d'une façon un peu nouvelle. Toute sa vie, sa philosophie a consisté à justement combattre le jugement. Combattre cette tendance au jugement et à prôner face au constat de l'injustice du jugement des hommes, à prôner une éthique du non-jugement. Par rapport à ce qui ne dépend pas de nous, alors Anton et Bohémien, ça n'a rien à voir avec l'institution judiciaire et le jugement en regard des normes juridiques. On est sur le plan des mentalités et de l'éthique, là, hein, d'accord. Voilà simplement ce que dit Paul Audy à ce sujet en parlant de Camus. Résumons-nous. Le procès du jugement, la mise en acquisition de la violence inhérente à tout procès, bref, le procès du procès, le procès, tout le monde fait des procès à tout et pour tout, Camus l'a réalisé à sa façon et dans les limites de ses moyens. Dans le sillage de Nietzsche et de Kafka, c'est-à-dire du paragraphe 33, de l'alinéa 33 d'Humain trop humain, c'est un des livres de Nietzsche, et dans le procès donc, de Kafka. Il a tenté d'esquisser une psychologie de ce cœur moderne dont lui-même était le digne représentant, car en dépit de sa lucidité, Camus, répétons-le, n'en était pas moins le fils de son temps. Je rappelle ce qu'il en disait. Il a le corps moderne, celui qui ne supporte plus d'être jugé. Or, nous y voilà, nous tous, que nous le voulions ou non, nous sommes dotés d'un cœur moderne qui veut juger sans être jugé. C'est-à-dire qu'en gros, tous, on se prétend avoir pris la place de cette instance supérieure, quelle que soit la façon dont on la nomme, encore une fois. Et ce livre se termine avec cette phrase qui résume l'enjeu éthique. En finir avec le jugement des hommes, y parviendrons-nous jamais. Et donc, on voit bien là comment ça rejoint cette préoccupation de la morale stoïcienne, au fond, qui est que fermons ce robinet lié à la force de l'habitude, que ce soit l'habitude de la société, de la culture, du bain dans lequel on est plongé, qui est d'avoir des jugements spontanés sur tout et n'importe quoi, et notamment de préférence sur les autres, quoi. C'est en fait sur tout ce qui est extérieur en soi, alors qu'on doit exercer son jugement uniquement sur la sphère qu'on maîtrise. C'est-à-dire, on ne peut exercer son jugement que sur nos jugements.
Ni dans le mal, et tout est égal.
Alors ça, c'est effectivement le développement nietzschéen. Mais c'est compliqué parce que Nietzsche n'était pas amoral. Il est dans un dépassement, mais pas une négation.
Il est par-delà.
Il est par-delà le bien et le mal. Il n'est pas en deçà. C'est-à-dire que ce qui est une différence très importante, en deçà et par-delà, ce n'est pas la même chose. Hein. L'en-deçà, c'est une forme de négation de la question du bien et du mal. Le par-delà, c'est qu'on a une relation avec le bien et du mal qui nous permet de penser pense-t-on au-delà. Mais en tout état de cause, ça c'est ce que Nietzsche fait de cette pensée. Non, la question c'est que les stoïciens ne sont pas en dehors du bien et du mal. C'est pour ça que c'est une morale. Profondément, c'est une philosophie de morale. La morale suppose qu'il y ait du bien et du mal. C'est que le bien et le mal ne s'exercent pas sur ce qui est extérieur à nous. Par exemple, le fait qu'il y a un tremblement de terre de Lisbonne en 1755, merci. C'est ni bien ni mal. C'est en dehors du terrain de la morale. Il n'y a pas de jugement moral. Et ça, c'est tout le débat que j'aime à rappeler et que le Pestipon hier a vaguement évoqué, mais pas complètement, de l'opposition entre Voltaire et Rousseau. Voltaire, il fait comme si c'était d'une certaine manière de l'ordre de la morale et considère que le tremblement de terre de Lisbonne, c'est la preuve que il n'y a pas de bien, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'instance du bien et du mal, il n'y a pas de Dieu. Ça amène Voltaire à conclure qu'il n'y a pas de Dieu. La réponse de Rousseau est magnifique. Et c'est ce dont Voltaire va se nourrir pour en vouloir jusqu'au bout à Rousseau. Quoi. Il va le poursuivre d'une façon détestable. Rousseau a répété à Voltaire. Voltaire, c'est... Voltaire, je ne vous dis pas le mal que je pense de Voltaire. Non. Mais Rousseau, je peux vous en dire le bien. Rousseau dit, il ne s'agit pas, ça ne met pas en cause un principe supérieur qui déterminerait le bien et le mal. Le tremblement de terre de Lisbonne, c'est tout simplement de l'ordre de la responsabilité des hommes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est parce qu'on a construit là où il ne fallait pas construire. Et c'est le même débat qu'il y a eu quand il y a eu les inondations de Vaison-la-Romaine, par exemple, qui a fait... Ça a été la première catastrophe climatique contemporaine qui a choqué les esprits. Il y avait deux positions. Il y avait ceux qui disaient « Oh là là, c'est un grand malheur, Dieu là-dedans, dans tout ça. » Et il y a ceux qui ont dit « C'est parce que on a construit là où il ne fallait pas. » Construire, en l'occurrence, c'était un camping surtout, mais voilà. C'est de la responsabilité morale des hommes. Donc, en gros, le bien et le mal existent dans le stoïcisme, mais ils existent non pas ce sur quoi on n'a pas d'agir, il existe ce qui est de l'ordre de notre portée, ce qui dépend de nous. Ce qui dépend de nous doit être effectivement investi de la question du bien et du mal, clairement.
Mais jugement moral, si on dit jugement moral, quel est l'autre jugement qui ne serait pas moral dans la peine du commun ? Jugement critique ?
Alors, non, il y a le jugement. Alors, il y a le jugement judiciaire qui renvoie au système de normes qui organise une société. Et puis après, il y a oui, le jugement critique, l'exercice. L'exercice de la raison, la mise en crise.